Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervan avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, Militant, une série d'Arnaud Contreras réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a l'année électorale qui nous pend au nez, rythme nos agendas politiques et médiatiques, envahit nos écrans, nos soirées et s'affiche sur nos murs. Il y a aussi cette inquiétude face à l'amertume qui monte, au désengagement et à cette fatigue politique. Pourtant, les partis traditionnels, les petits partis, mais aussi les associations et les collectifs continuent d'exister, de vibrer et de recruter malgré tout. Des slogans nouveaux naissent encore et les pavés sont toujours battus par le pas des manifestants. Alors allons voir ce qui reste de nos engagements dans ceux des jeunes générations. Pour commencer, les personnages. Des militants, des vrais, des idéalistes authentiques, des revenus de la politique, des démocrates forcenés, d'autres qui y croient plus que jamais, des aficionados de l'intervention, des abstentionnistes, d'autres qui votent blanc, des syndicalistes et des activistes. Ensuite, le décor. Des actions, des manifestations, des affiches de grandes tables où chacun peut s'asseoir, la fête de l'UMA et ses stands, des télévisions associatives, des fanfares, des places, des rues de Marseille, des tas d'initiatives et bien sûr des squats. On est en France, à Marseille, et on est en queue de cortège.
Hors parti, militer pour résister. Arnaud Contreras, Jean-Philippe Navarre.
Bonjour, je m'appelle Yves, j'ai 50 ans et j'ai décidé de ne pas voter aux prochaines élections. Moi, je ne crois plus dans la logique des partis. Je crois beaucoup plus aux actions collectives, ou à un tissu associatif qui fait des choses, des citoyens qui se mobilisent, qui sont là, qui servent un petit peu de béquille à l'État, en fait, pour certains. Il y a des associations qui sont assez importantes, qui sont quasiment en gestion déléguée d'un service public qui devrait faire l'État, mais que l'État ne peut plus faire. Oui, je crois beaucoup plus au tissu associatif ou à des gens qui décident de faire des actions comme ça, individuelles, pour que la société se porte mieux, que, on prend sa carte à un parti, on fait des réunions, très bien, mais il ne se passe rien d'autre. Il ne se passe rien, en fin de compte.
Ils sont lassés, amers, parfois aigris en écoutant les hommes et femmes politiques français qui défilent dans nos oreilles. Ils ont été engagés dans différents partis traditionnels, ont consacré leur énergie à défendre des convictions fortes. Aujourd'hui, ils sont toujours militants, mais de manière différente. En dehors des partis, ils tentent de réinventer la démocratie, ont parfois des propositions chocs, souvent des actions de proximité au quotidien. L'élection présidentielle leur est étrangère, peu d'entre eux s'y intéressent. Nous partons à la rencontre de ces militants, toujours passionnés par la politique, qui conservent la foi dans leurs idéaux, qui agissent de manière concrète et qui nous offrent de l'espoir. Première escale à Marseille, d'un quartier l'autre.
Alors Nicolas, on approche de l'élection présidentielle. Quel va être votre engagement ?
Aucun. C'est-à-dire je me sens pas concerné par les possibilités qui s'offrent à moi de façon réaliste.
J'aurais peut-être voté au premier tour comme ça pour accompagner un copain ou ma copine, mais à part ça, je vois vraiment pas ce qui pourrait se passer.
Ouais, on est un peu désespérés, hein, c'est la merde, hein, mais moi je pense que le travail qu'on fait au quotidien ici, en produisant du discours, en gardant une trace d'une mémoire populaire, d'une histoire populaire, d'une réalité de quartier, je pense que ça sert aussi, quoi. Ça maintient des liens qui sont en train de se distendre et qui sont super nécessaires. Et peut-être qu'on abandonne un terrain, mais on ne les abandonne pas tous. Et celui-là, je pense qu'il est aussi vraiment, vraiment nécessaire et important pour l'avenir. Là, on est en train de monter sur la place Jean Jaurès, qu'on appelle plutôt la plaine à Marseille. Mais en fait, c'est plutôt un plateau sur lequel se tient un marché 3 fois par semaine, un grand marché. Et c'est un quartier de centre-ville de Marseille qui est un quartier qui a été pas mal boboisé et gentrifié ces dernières années, mais qui reste quand même un quartier très mélangé, très métissé socialement.
Je m'appelle Nicolas, et je vis à Marseille depuis 25 ans et je suis très impliqué depuis 18 ans dans une association qui s'appelle Primitivi, qui est une téloge de rue, comme on aime bien l'appeler, et qui produit des petits films courts d'actualité politique et sociale.
Est-ce que c'est un acte politique, Nicolas, de créer une télévision dans cet endroit, à la Plaine ?
Ah bah oui, c'est vraiment un acte politique. Enfin, nous, on le fait vraiment comme un acte politique. Parce qu'on trouve que les médias dominants sont, comme les hommes politiques, de plus en plus coupés de la réalité et qui viennent plaquer un discours sur la vie quotidienne des gens qui ne nous ressemble pas du tout, dans lequel on ne se reconnaît pas du tout. Ici, là, il y a un terrain de boule sur lequel a été installé, il y a quelques mois, des grandes tables qui ont été installées par des habitants, par des militants. Et ces grandes tables, c'est vraiment un symbole d'essayer de conserver ce quartier populaire qui est ouvert vers l'extérieur, où les gens se rassemblent. Et ces tables, elles ont été détruites par la mairie à la tronçonneuse il y a quelques mois, puis reconstruites en plus solide, plus costaud, plus grande, plus belle quelques semaines après. Donc il y a une espèce de guéguerre comme ça de terrain entre des plans de restructuration de cette plaine et de cette place et puis des habitants qui essayent d'y résister, en particulier grâce à l'Assemblée de la Plaine, qui est une assemblée très dynamique qui existe depuis des années, mais qui est très dynamique en ce moment et qui se réunit une fois par mois et qui propose tout un tas d'événements, qui fait un petit journal, qui fait des concerts, qui fait des manifestations politiques devant la Soleam, enfin qui essaye de décrypter, de déconstruire et de contester ce projet de rénovation immobilière que nous on voit comme une entreprise d'embourgeoisement de notre quartier, quoi.
Nicolas, installer des tables de 10 mètres de long dans un quartier populaire, pour toi c'est plus efficace qu'un tract, qu'une affiche pour promouvoir ces idées, les idées que tu défends ?
J'aime bien les tracts et les journaux et les affiches aussi, mais faire des choses ensemble, je pense qu'en tout cas ouais, c'est quelque chose qui laisse des traces, qui laisse une expérience collective, c'est de la culture en fait. Enfin, sur ces tables, depuis qu'elles sont là, elles sont toujours pleines. Là, il y a des gens qui sont en train de jouer de la guitare, de faire les devoirs, ou je sais pas, mais il y a tout le temps du monde là, tout le temps. Ça a vraiment servi, il y a aussi des petites plantations qui ont été faites, mais ça a été vraiment actif, quoi.
Pourquoi est-ce qu'un parti politique traditionnel ne pourrait pas faire ça ?
Bah, je sais pas, ils ont qu'à le faire, hein, mais parce que je crois qu'il y a des moments où, alors je sais pas, est-ce que c'est une question de légalité, mais il y a des moments où il faut brusquer un peu les choses, quoi. Là, on est arrivé à une telle fracture totale entre le monde politique, les partis politiques, les mairies, le gouvernement et les gens de la base que, enfin, c'est pas en attendant de la mairie de Marseille qu'elle installe des tables que ça va se passer. Et est-ce qu'un parti politique pourrait faire ça Bah peut-être, hein, ça serait possible, hein, mais moi c'est pas là-dedans que j'ai envie de me mobiliser parce que j'y crois plus aujourd'hui du tout. Enfin, je fais vraiment partie des désabusés totaux des partis politiques d'aujourd'hui, quoi.
Une salle dans un squat éphémère parisien. Des petits groupes de 10 personnes s'agitent, lancent des idées, collent des post-it sur les murs et dessinent sur une sorte d'immense écharpe extensible jaune dans laquelle ils s'installent. Cela ressemble à une ambiance de réunion d'inventeurs et c'en est une. Réunis au sein du collectif Ma Voix, ils sont partisans de la démocratie participative et numérique. Ils veulent hacker l'Assemblée nationale.
Il y a le bureau, en fait, sont disponibles. Il y a aussi un bar, il y a aussi des tables. Donc, chaque équipe peut se retrouver dans l'endroit qui l'arrange, le bureau ou le bistrot.
Donc, l'idée, c'est de prendre des choses comme ça. Ça s'appelle des gumes jaunes, mais on s'en fout. On va écrire dessus ma voix et on va aller sur les marchés, on va aller dans la rue, on va aller partout dans chaque circo, hein, parler aux gens, rencontrer aux gens, les inviter à venir dedans et échanger avec eux sur le sujet.
Donc, ce soir, c'était la rentrée... et le lancement du collectif Ma Voix Paris, avec en ligne de mire le hack de l'Assemblée nationale pour le premier tour d'élection législative qui est maintenant dans 263 jours. Je m'appelle Thierry, j'ai 41 ans et j'habite à La Rochelle.
Qu'est-ce que ça veut dire hacker l'Assemblée nationale ?
Ça veut dire quelque chose de très simple qui est de jouer avec les règles. On ne dit pas il faut changer les règles parce qu'elles ne nous conviennent pas, mais on dit aussi qu'elles ne nous conviennent pas, donc on va jouer avec. Et notre objectif, c'est de faire entrer une dose de démocratie directe à l'Assemblée nationale en faisant élire des citoyens volontaires formés et tirés au sort qui, une fois élus, si les électeurs le décident, députés à l'Assemblée nationale, retransmettront les choix des électeurs. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une loi en discussion à l'Assemblée nationale, ils reviendront vers les électeurs au travers d'une plateforme en ligne qui permettra à la fois de discuter, de s'informer, de débattre, puis de faire un choix sur la position qu'on voudra que les députés Mavoie retranscrivent à l'Assemblée nationale. Moi, ce qui m'intéresse dans Mavoie, c'est justement d'essayer des nouveaux trucs, quelque chose d'inédit. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la démocratie est malade et que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait. Et donc Mavoie, c'est peut-être pas la réponse miracle, mais c'est au moins une réponse qui permet de tester quelque chose de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, ce que peu de gens savent, c'est qu'ils confient leur voix à un député, mais lui-même se la voit confisquer par quelques personnes, en général les dirigeants de son groupe politique ou de son parti. Et donc, aujourd'hui, les députés sont dépossédés du suffrage qu'on leur a confié. Et donc, l'idée de Mavoie, c'est que chacun puisse se réapproprier sa voix, d'où le nom Mavoie, son suffrage, et redevenir acteur de sa propre vie. Parce que ce sont les lois qui régissent nos vies. Et moi, je ne veux pas continuer à les laisser écrire par trois personnes qui ne sont en plus pas les personnes que j'ai élues.
Vous avez été militant politique, Thierry ?
Oui, moi j'ai fait de la politique déjà pendant 20 ans. J'ai été au Parti Socialiste, mais il y a à Mavoie des gens de tous les partis, et des gens surtout, qui ne viennent d'aucun parti. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans Mavoie, c'est ça, c'est de... parce que je connais trop la tentation groupusculaire, les gens qui partent d'un parti, qui créent un autre parti plus petit, et puis après on se rassemble entre gens aigris des différents partis, on essaie de faire quelque chose. Là, à Mavoie, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de politique de leur vie, et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et on arrive à faire des réunions à Paris à 200, où il y a plus de filles que de garçons. Moi, j'ai jamais vu ça dans aucune réunion politique, et c'est vraiment très revigorant, et ça donne beaucoup d'espoir. Et puis aussi, ce qui est très intéressant pour moi, c'est de se dire, je fais ça de façon totalement désintéressée. Après, c'est chacun avec sa conscience, mais moi, c'est sûr, je ne serai pas candidat à aucun des tirages au sort organisés par Mavoie. Mon idée, c'est vraiment de mettre mon expérience de la chose politique au service des autres.
La démocratie, c'est pas facile.
La démocratie, c'est pas facile.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps.
C'est long.
Salut, hein.
La fiche de Mavoie, elle n'est pas du tout conventionnelle, puisqu'il n'y a pas la bobine des candidats ou de la... comme sur les autres affiches. Il y a un miroir avec comme slogan « Qui me représente le mieux ?» Et l'idée, c'est que quand on passe devant l'affiche, en fait, on se voit dedans et on prend conscience du rôle qu'on a à jouer soi-même dans l'élaboration des lois et la fabrique de la loi. Et ça nous a aussi permis de faire une campagne qui, elle aussi, n'était pas conventionnelle, puisqu'on a fait une campagne de rue devant les panneaux électoraux. Les Strasbourgeois, les contributeurs de Mavoie à Strasbourg, attraper les passants, entre guillemets, dans les rues, les amener devant l'affiche et leur demander de réagir et de voir ce que ça leur faisait. Et c'était vraiment un moment d'échange démocratique très touchant. Et moi, je me souviens du témoignage d'un passant comme ça, qui devait avoir une quarantaine d'années, un monsieur qui disait... Moi, j'étais bien embêté parce que je me disais, je ne vais pas aller voter. Et en même temps, j'étais très ennuyé de ne pas exercer mon droit de vote parce que c'est quand même important. Et là, en voyant Mavoie, je me dis, peut-être que je vais pouvoir voter sans me trahir pour une fois.
Fête de l'humanité, La Courneuve, région parisienne.
Si on est chacun dans nos vocales, chacun sur le terrain en phase avec ses problèmes, on n'y arrivera pas. Il y a besoin de solidarité entre tous ceux qui, chacun à leur place, chacun là où ils peuvent, essayent de faire changer le cours des choses en la matière.
Merci Marie-Christine.
À la fête de l'Humain, il y a toujours des stands de militants communistes, de grandes sociétés, de pays dits amis. Il y a aussi de nombreux stands d'associations. L'un d'entre eux nous interpelle, celui des jeunesses communistes. On s'attend à découvrir une école de formation pour futurs cadres du PC. On y croise en fait des militants de toutes les causes, des parcours de vie engagés. Le militantisme est leur école, pas le parti.
Je
m'appelle Camille, j'ai 22 ans, je suis ouvrier du livre. Moi, je suis pas adhérent au Parti communiste. Je suis adhérent à la jeunesse communiste. Parce que moi je pense, et ça c'est mon avis personnel, hein, je pense qu'aujourd'hui le Parti communiste depuis des années a changé complètement de ligne politique, de stratégie. C'est-à-dire que ce n'est plus le parti des travailleurs, c'est pas un parti de classe quoi, c'est un parti de la classe ouvrière. Il a tourné vers vraiment le tissu associatif, etc. Et on le voit aujourd'hui, par exemple la fête de l'humanité qui reste une fête populaire, parce que c'est à 25 euros un festival comme ça, il n'y a jamais en France, hein. Mais quand même, vu les stands qu'il y a, il y a très peu de partis communistes qui sont représentés. Il y a beaucoup plus d'associations, etc., etc. Et ça se voit aussi aujourd'hui au niveau électoral. C'est-à-dire que malheureusement, hein, une grosse majorité des travailleurs ne votent plus Parti communiste. Soit ne votent plus, il y a l'abstention énorme, soit malheureusement, ils votent Front National. Parce que le Front National se présente en tout cas comme le parti anti-système, entre guillemets, un parti de contestation, etc. Et que le Parti communiste, en tout cas, ne porte plus de perspective au niveau des travailleurs. Moi, je suis intérimaire, je suis ouvrier du livre, et j'ai vu vraiment comment ça se passe dans les boîtes, hein, dans les tôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un intérimaire, il n'y a aucune dignité au travail. Hein, le gouvernement nous dit que l'intérim, en tout cas, c'est une solution pour l'embauche des jeunes parce que ça correspond un petit peu à la vie que les jeunes à chercher un petit peu plein de boulot et tout. Mais on voit rapidement que c'est une leurre parce que moi, je travaille avec des gens qui ont plus de 3 ans, 4 ans en intérim et qui n'ont pas de perspective d'embauche. Et même, je travaille avec des gens qui ont plus de 40 ans, qui sont en intérim. Et voilà, après, sur la dignité du travail, là, on n'en parle pas. C'est-à-dire que on fait quand même un travail difficile, on commence à 21h, on finit à 5h45, on soulève tout le temps des paquets de journaux, etc. etc. Parfois, il y a de l'énervement, il y a du stress, il faut lancer la production.
Du point de vue humain, Camille, qu'est-ce que ça vous apporte, le militantisme ?
Ah ben, du point de vue humain, je veux dire, nous, on a le temps, c'est qu'on est jeunes déjà. La limite d'âge, entre guillemets, à la jeunesse commune, c'est mes grands maximum 29 ans. C'est-à-dire qu'on mène aussi une vie de jeune, c'est aussi de rencontrer des camarades, de rencontrer des dizaines et dizaines de nouvelles têtes chaque année, discuter avec eux, d'échanger politique, et pas que politique, culturelle, d'échanger des livres, des films, etc. C'est enrichissant parce que moi, en tant qu'étudiant, quand j'étais étudiant et militant de la jeunesse communiste, je pense que sincèrement, j'ai plus appris en étant à la jeunesse communiste qu'à la fac, parce que à la fac, c'était un enseignement clair, précis et tout, alors qu'à la jeunesse communiste, j'ai vraiment lu des bouquins ou vu des livres ou écouté des musiques que, par exemple, j'aurais jamais lu en étant pas à la jeunesse communiste. Je prends un exemple, un livre que j'adore, c'est de Jeannette Vermeche-Torres, La vie en rouge, que j'ai découvert grâce à un camarade qui me l'avait offert pour la formation, entre guillemets, politique, quoi. Et aussi, participer à la fête de l'humanité qui est une fête extraordinaire, populaire, etc., etc.
Est-ce que du point de vue du développement, votre développement personnel, c'est aussi un moyen d'avoir rapidement des responsabilités, d'assez rapidement pouvoir être instance de décision ?
Je pense que oui, parce que je prends un exemple, hein. C'est-à-dire que en étant responsable, ça nous amène souvent à prendre la parole en public. Et moi, qui étais au début timide, qui n'osais pas parler devant une foule de public, par exemple contre la mobilisation de la travail, j'ai dû prendre la parole devant 100 000, 120 000 personnes, etc. Ce qui est énorme. Moi, qui étais timide, ça m'a exercé. Et concrètement, dans la vie pratique, ce qui m'a permis, c'est aussi, par exemple, face à un entretien d'embauche, d'être à l'aise et de parler, de valoriser mes compétences et de pas rester comme ça à ne rien dire en étant timide, quoi.
On sent qu'il y a quelque chose qui que ça bouillonne. Alors avant que ça casse tout, je préférerais qu'on trouve des solutions légales. Moi, je suis plutôt légaliste.
Le monde politique attire des personnes expérimentées, des égaux, des professionnels de la santé, du commerce ou de l'agriculture qui souhaitent transmettre leur savoir. Xavier est connu dans le milieu du militantisme contre la malbouffe et a créé le mouvement de libération de la politique. C'est le seul candidat que nous rencontrons. Malgré son nouvel investissement, il reste un militant qui veut transmettre.
Moi, le truc que je vais faire, c'est que moi, je suis assujetti à aucun lobby, aucun parti. Ça, c'est clair. Et je te dis, demain, si t'as 100 gugus comme moi à l'Assemblée nationale, ça va pas faire la même. Et ça, leur truc, leurs petits avantages, leurs petits machins, leurs trucs, on va défoncer le truc, on va raconter ce qui se passe. Parce que là-dedans aussi, à l'Assemblée nationale, d'avoir des trucs un peu pas très clairs. On n'est pas tous au courant, moi.
Mais Xavier, tu pourrais pas avoir cette action politique de militant au sein d'un parti ? Pourquoi est-ce que tu es obligé de te présenter ?
Il y a une faillite, il y a eu une faillite des corps intermédiaires et il y a une faillite des partis politiques. Il y a, dans les partis politiques, on voit bien comment ils se cohabitent les uns les autres, tout ça, donc ça fait des renvois d'ascenseurs dans tout le système, que ce soit dans le département, la mairie, la région. Il y a une espèce de truc comme ça, surréaliste, de cooptage, de copinage. Et ça, c'est les partis. On est dans la faillite de la politique à cause des partis politiques. Donc il faut en sortir. Donc moi, je pense qu'il y a un groupe. Voilà, après, avec des idées, moi je suis plutôt sur des idées, une vision durable de l'économie, du social, de la culture, de l'environnement, voilà, une vision comme ça. Et avec long terme, quand je reprenais l'idée vraiment du Conseil national de résistance, c'est-à-dire qu'ils se mettent à bosser. Alors la France, elle n'est pas en miettes comme maintenant, elle était carrément écrabouillée, mais ils ont cette vision quand même. Alors ils ont fait des conneries. Pisani, quand il décide de faire l'agriculture industrielle, Pisani, il pense que c'est le meilleur modèle, le meilleur américain. Bon, après, il reviendra dessus, il dira qu'il s'est planté. Et ils le font, ils font du nucléaire, ils se disent, bon, bah, l'énergie nucléaire, bon, effectivement, c'est notre sortie de la Seconde Guerre mondiale. On peut se dire, tiens, ça peut être un truc, maintenant, bah, on peut revenir dessus. Mais au moins, ils ont une vision long terme. Le ferroviaire, les autoroutes, enfin, ils ont une vision, le social, etc. Donc, la protection sociale. Donc, ils ont quelque chose et ils voient loin. Et moi, je pense que ce qui manque aux politiques, et c'est parce qu'ils veulent toujours être élus, c'est pour ça que moi, je dis, moi, je veux, si je le fais, je le fais une fois, deux fois, parce que je pense que si tu bosses à fond là-bas, je crois qu'à mon avis, tu dois être secoué à la fin. Donc tu le fais une fois, deux fois, puis tu retournes dans ton boulot. Donc tu ne fais pas 36 000 fois. Et puis ça tourne. Là, c'est toujours les mêmes. Les mecs, on les voit à 70 ans, on leur donne encore des postes. Prends ta retraite et tout. Tu as déjà eu je ne sais pas combien de pognon. C'est quoi ? Ils s'accrochent à leur truc, mais laissent les jeunes. Je suis un gosse de pauvre. Je reste profondément, même si je suis devenu riche, parce que j'ai plein d'affaires, etc. Mais je reste quand même ancré quand même dans ce que je sais, ce que ça veut dire un euro, de ce qu'a gagné un SMIC. Je suis incapable d'aller bouffer chez Ducasse et de claquer 1000 balles. C'est pas possible pour moi. Je suis surréaliste. Enfin, moi, mes clients, ils mangent un plat du jour, c'est à 10 à 12 balles, quoi, ou 11 balles au menu, et puis ils sont contents. Tu vois, c'est ce côté quand même. Je pense qu'il faut rester. Voilà, faut rester avec les gens, et que tout ça, ça se mélange. Moi, j'ai des gens qui sont comme Miguel Barcelot, des grands peintres, des grands acteurs. Et tout ça, ça se mélange avec les autres.
Mais sur quelle fibre est-ce que tu peux mobiliser ?
Il y a quelque chose sur l'entreprise et sur le social, sur la manière de gérer les entreprises, et de montrer que d'être un citoyen engagé dans la vie, ça a aussi un impact. Tous les jours, c'est-à-dire que c'est pas et puis de montrer effectivement qu'on peut partir d'en bas, de rien, et construire des choses, et construire et ne pas penser que l'intérêt particulier, parce qu'en fait aujourd'hui, nous avons que des sommes d'intérêt particulier qui sont pas à la sortie d'intérêt général. Donc moi j'ai pu, voilà, l'idée c'est aussi de montrer cette congruence entre l'homme, le travail et l'entreprise, et puis la nation, et il y a quelque chose qui doit y avoir du lien, voilà, et d'avoir surtout de montrer que quand on garde ces convictions, dans le temps, bah ça marche. Il y a, chez moi, un désir vraiment d'aller vers l'autre aussi. Et d'aller vers l'autre et que l'autre comprenne qu'on n'est pas tous des enfoirés. Ce n'est pas parce qu'on est patron ou c'est parce qu'on est homme politique demain qu'on serait vraiment... Il y en a des biens, hein. Il y en a, heureusement. Sinon, ce serait la cata.
Là, il y a les potes là.
Mais c'est terrible.
Ils sont tous passionnés de politique, et quand bien même les partis ne les attirent plus, certains choisissent l'engagement syndical pour partager leur vision de la société.
Erwan, 36 ans, et enseignant à côté. Et ce qui m'occupe une bonne partie de l'année quand même. Le choix du syndicalisme, et donc de la CNT, ça a été une réflexion un peu pragmatique, de me dire, mais... dans quelles conditions et où est-ce qu'on est le plus utile et qu'est-ce qui va nous obliger à discuter le plus possible avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et je me suis dit que finalement l'engagement syndical, libertaire, correspondait assez bien à ces objectifs-là, beaucoup mieux qu'un choix dans une organisation politique plus traditionnelle. J'aurais pu retrouver à l'époque des camarades de l'LCR, j'en ai toujours d'ailleurs, mais l'engagement dans un syndicat révolutionnaire me semblait plus efficace. Après, sur l'élément aussi central, c'est que la vie politique par les partis politiques, j'en ai peu de confiance et peu d'intérêt sur une vie qui me semble un peu sclérosée et qui est dans la reproduction d'une société de domination et que finalement, même un parti qui pourrait critiquer cette organisation-là du Monde, finalement, d'une certaine manière, l'a reproduit. Et donc, ça a été assez naturellement, en fait, pas le rejet, mais le choix, en tout cas, d'aller vers une autre voie que celle de parti classique.
Qu'est-ce que c'est la vie de militant ? On fréquente que des militants, on sort qu'avec des militantes, on vit avec dans cet univers-là ?
Pour être honnête, en partie oui, mais seulement en partie heureusement. La vie de militant, c'est un engagement au quotidien. Et c'est pour ça aussi que moi, le syndicalisme était important. C'est au quotidien, sur le lieu de travail, avec les collègues, avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc, du coup, ça nous oblige justement à sortir d'une sphère militante complètement fermée, qui vivrait qu'en vase clos. Là, de fait, par l'engagement sur le lieu de travail, ça oblige à discuter avec tout le monde. Et donc, la vie de militant, elle est rythmée, en tout cas du militant syndicaliste révolutionnaire, sur le lieu de travail, avec pas mal de discussions, de débats, de conflits aussi, rythmée par des réunions pour la vie de l'organisation. Nous, on décide tout en assemblée générale, donc c'est une réunion du syndicat départemental, une réunion pour l'union régionale, une réunion pour les questions internationales. Donc ça, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps pour définir des objectifs, des axes de travail. Et après, c'est aussi tout un travail plus... Parce qu'à la fois, la réunion est intéressante, le débat d'idées est intéressant, et puis l'intérêt de produire du texte, de produire des visuels, c'est finalement très varié, la vie d'un militant, et à la fois, ça prend énormément de temps, et en même temps, c'est excessivement enrichissant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue des compétences qu'on développe, créer une revue, créer un site internet... parler avec des journalistes, par exemple. Et tous ces éléments-là sont aussi des éléments qui, au quotidien, émancipent, permettent d'être un peu plus à l'aise et de se libérer d'une société qui, moi, à mon sens, est oppressive. Donc c'est le quotidien d'un militant, c'est une vie à la fois chargée et qui est faite de beaucoup de rencontres, beaucoup de sociabilité, beaucoup de plaisir, donc de rigolade. Voilà, c'est aussi ça, la vie de militant, c'est du plaisir, en fait.
Le bonheur de la rencontre humaine, c'est d'aller à la rencontre des gens, de retourner vers l'autre. En fait, ce que j'avais plus du tout dans la partie classique, c'était que finalement, ça fonctionne un peu en vase clos, et puis on finit par être de moins en moins nombreux, et on reste juste avec les gens avec lesquels on est le plus d'accord sur tout, quoi. Et ma voix fait le pari inverse. L'idée de ma voix, c'est de dire que, en fait, la démocratie, c'est une conversation, et que notre sujet aujourd'hui, c'est de renouer la conversation, de retourner à la rencontre de l'autre, dans sa différence. Peut-être on ne sera pas d'accord. On sera d'accord sur un sujet, le lendemain on sera en désaccord, le surlendemain on sera à nouveau d'accord. Et c'est ça qui fait la richesse de la démocratie, de se reparler et de renouer la conversation. Et ça, c'est ce que m'apporte ma voix aujourd'hui, que je ne trouvais plus du tout dans le parti dans lequel j'étais.
Qu'est-ce que les partis politiques vous renvoient ?
Le sentiment qu'on a, c'est que ça les déstabilise un peu, ils ne comprennent pas trop comment on peut ce qu'on cherche. Parce qu'ils ne comprennent plus non plus tout à fait, je pense, ça c'est mon avis personnel, les attentes de leurs électeurs. Donc ça les déstabilise et en même temps, ça les renvoie aussi à la crise de leur parti. Quand des gens se mettent à être intéressés par ma voix et plus du tout par les partis politiques traditionnels, c'est bien le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux.
On peut suivre un autre coin de la plaine.
Ouais, bah on peut aller dans les rues piétonnes là-bas, si vous voulez.
Qu'est-ce que ça t'apporte, Nicolas, le militantisme ?
Bah, ce que ça m'apporte... Moi, je considère ça un peu comme... Enfin, je sais pas, je me pose même pas la question, quoi. Moi, j'ai envie de... Ça me rend vivant... Ça me donne envie de me lever le matin, ça me donne la force de supporter tout ce que je supporte pas dans ce monde, dans cette ville, tout ce que je vois. Enfin, j'ai l'impression d'agir, quoi, de faire quelque chose, de faire pas forcément ce que ça va pas forcément changer le monde, mais j'ai l'impression de faire ma part. Et, sans doute une espèce de sensation, de sentiment du devoir. À le faire, je me dis qu'il faut, agir, quoi. Il faut se bagarrer, il faut défendre des valeurs, il faut défendre des opinions, il faut pas accepter la honte impardonnable que l'Europe est en train de commettre en laissant mourir 3000 personnes dans la mer Méditerranée chaque année. Il faut lutter contre les mêmes puissances de l'argent qui transforment nos villes et qui nous en expulsent, nous chassent des quartiers où on a grandi, vécu, aimé, construit notre culture et notre vie. Enfin, voilà, des choses comme ça. En même temps, l'engagement citoyen, c'est ça qui permet que ce monde soit encore vivable, quoi, qu'on arrive encore à se parler dans la rue. Et là, effectivement, il y a une coupure qui, à mon avis, est définitive avec un mode de politique, un mode de parti de fabrication d'une classe politique qui s'est complètement exclue elle-même de la vie du peuple, des gens, du monde. Enfin, on est retourné dans un système féodal, quoi. Il va falloir les chasser un jour ou l'autre, il va falloir les chasser et les faire disparaître. Je peux pas dire mieux. Aujourd'hui, on se sent plus utile et plus efficace et plus à notre place en n'étant pas à l'intérieur des partis.
Erwan, vous êtes aujourd'hui professeur dans un lycée professionnel. Comment est-ce qu'on ne mélange pas en fait ses opinions personnelles avec son enseignement ?
Première chose, déjà, c'est qu'on a des programmes. Moi, je suis professeur de français et d'histoire-géographie. C'est pas moi qui décide de ce que l'on doit étudier. Après, la part des choses, elle se fait par conscience professionnelle. C'est-à-dire que mon engagement, il existe au lycée. Il existe auprès de mes élèves dans la mise en place d'une pédagogie que j'essaye la moins autoritaire possible, la plus émancipatrice possible. Donc, c'est déjà une forme d'engagement. Et ça, il est hors de question de la nier. Et puis, il y a des choix qu'on peut faire dans un texte qu'on peut étudier, etc. Après, c'est une évidence que l'objectif, pour moi, ça, dans le cadre professionnel, c'est un objectif militant qui est d'émanciper mes élèves, de leur donner les outils de réflexion. Après, mes élèves en feront bien ce qu'ils veulent. Peut-être que certains deviendront engagés ou militants, peut-être d'autres non. Tant qu'ils arrivent à s'émanciper, moi, mon engagement, il est là. Et la distance, elle se fait à ce niveau-là, en fait. Encore une fois, je suis dans une organisation et moi, je suis de sensibilité libertaire. Et donc, l'objectif, c'est de les rendre libres. Si c'est de les soumettre à une vision, a priori, j'aurais tout faux. Donc, c'est à ce niveau-là que se fait la distance. Et donc, elle se fait assez facilement, finalement, avec les élèves. Même si les élèves, ne serait-ce que parce que je suis en grève régulièrement, parce qu'ils savent que je vais soutenir des élèves, des camarades d'eux qui sont sans papier, mes élèves savent. Que je suis un professeur engagé.
Moi, je trouve plus important ce qui s'est passé, par exemple, au cours de la mobilisation contre la loi travail, avec des manifestations très, très importantes qu'on n'a pas eues depuis les retraites, voire même depuis le CPE, que des présidentielles, parce que, malheureusement, je n'ai pas envie de rabâcher des trucs du Front National ou de l'extrême droite qui disent tous pourris. C'est un cercle infernal. Du coup, le peuple, en quelque sorte, les travailleurs, les jeunes et tout, ne peuvent rien peser dans le débat politique. Alors que des mobilisations comme ça, enfin des mouvements sociaux comme ça, redonnent confiance aux travailleurs, aux jeunes, etc. Et là, ça a permis de redonner un petit peu au premier plan la voix de ceux qui ne l'ont jamais, dans les médias en tout cas. Par contre, les présidentielles, il faut se servir de ça pour peser, en tout cas pour la politique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la politique politicienne ou les hommes politiques professionnels. Tout le monde peut faire de la politique et je pense que tout le monde doit faire de la politique. À notre façon à nous, c'est-à-dire que nous, on ne cherche pas des postes de... Je veux dire, moi, je ne suis pas payé pour faire ça, ou voilà. Du coup, c'est ça, c'est un engagement d'abord, une prise de conscience due aux galères que vivent les étudiants, etc. Et après, aussi d'avoir rencontré les jeunes communistes qui m'ont permis d'expliquer d'où vient la galère.
Et si on regardait... Mais où ils vont ? Si on regardait les escaliers quand on redescend et...
La limite de mon travail, c'est de me dire un moment, écoute, tu critiques les trucs, tu fais des propositions, etc. et tout, mais c'est vraiment, voilà, tu dis ça, ça marche pas, il faudrait faire ci, il faudrait... Mais oui, mais sauf que t'as pas le pouvoir. Et que les citoyens, la plupart du temps, ils sont toujours en train de pleurer. Ah ouais, les politiques, ils font rien et tout. Ben oui, mais prends le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut y aller, il faut aller au feu, il faut aller se présenter. Mais pour ça, il faut aller convaincre un à un. J'y arriverai pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, si j'y arrive, ben d'autres vous diront, attends, ben nous aussi, je peux y arriver. Et si demain, et puis on verra bien, on verra dans 6 mois ou 5 mois, avec les militants qui voudront bien me soutenir, parce qu'on est limité, tu sens, on est limité à... Alors, il faut te rappeler que tout le monde, aux législatives, tout le monde peut y aller, il faut avoir 18 ans, pas être privé des droits civiques. Après, bah, il faut à peu près entre 20 000, 30 000 balles. Alors, ça paraît beaucoup, par contre, pour un citoyen qui n'a pas de pognon. Tu vois, si t'es smicard, etc., bah, c'est compliqué. Alors, il faut aller chercher des gens qui vont te soutenir, parce que tu sais que tu déduis 66% de tes dons. Donc, il faut aller chercher partout des centaines, des milliers de citoyens qui vont te donner 10 balles. Ça va coûter 3,40 €. Et avec ça, tu vas pouvoir avoir un peu d'argent pour mener ta campagne. Alors peut-être demain, si dans toute la France, les mecs ils disent « Ah ouais, mais on peut y arriver !» Ça va leur faire tout drôle.
J'ai pas pris de micro parce qu'on n'est pas très très nombreux. On s'aperçoit que la politique est un exercice citoyen pas si simple à faire bouger les foules. Donc apparemment, moi, j'ai pas affrété de bus encore comme ils font, mais je pense pas que j'en affrêterai non plus. Parce que j'ai vu que dans le Marais, des fois, de temps en temps, les partis politiques affrétaient des bus et il y avait des gens qui débarquaient avec les partis politiques. Donc nous, on est citoyens. Donc j'ai décidé après de nombreuses années d'activisme, de militantisme, j'ai pu défendre des positions, ce soit sur la transparence dans les assiettes, la transparence dans l'agriculture, la fiscalité. Et donc j'ai pris des positions souvent assez à contre-courant et assez fortes. Et je me suis aperçu à un moment en me disant bon bah on est à la limite de l'exercice. Et que les politiques qui nous dirigent depuis si nombreuses années, moi, ça me convient pas. Et que j'avais toujours ce sentiment que ce qu'ils faisaient, c'était pas vraiment forcément dans notre intérêt, mais c'était principalement, on le voyait souvent, enfin, c'était le sentiment qu'on avait de garder le pouvoir. Et on voit quand ils font ça pendant 50 ans ou 40 ans de leur vie, ben, on se dit, pourquoi ça tourne pas? Pourquoi on n'est pas des citoyens, je dirais, ordinaires, qui se retrouveraient à l'Assemblée nationale? Et je me demandais si, est-ce que les citoyens ont besoin de renouveler la classe politique et d'envoyer à l'Assemblée nationale des gens simples qui vont défendre coûte que coûte l'intérêt général. Alors je vais tomber la veste parce que je sais qu'à l'Assemblée nationale, ils ont tous des costards cravates. Moi, j'en aurais pas forcément, mais j'ai chaud.
Tout le monde n'était pas d'accord pour l'installation de ces tables, mais il y a des gens qui ont écouté l'Assemblée, qui ont écouté ce qui se racontait, et puis qui se sont dit qu'ils allaient faire ces tables. Puis finalement, tout le monde était très content qu'elles soient là. Elles ont été attaquées brutalement par la police municipale, ce qui a donné lieu à une espèce de psychodrame avec arrestation, gazage et découpage des tables à la tronçonneuse. Et puis elles ont été réinstallées lors d'une grande fête où il y avait 1500 ou 2000 personnes sur la plaine, et elles ont été réinstallées en plus solides, plus grandes et plus belles.
Donc ça, c'est vous qui les avez installées ?
Oh, bah c'est nous, c'est les habitants de la plaine. C'est informel, hein, l'Assemblée n'a pas d'existence ni associative, ni juridique. C'est encore moins un parti politique ou un syndicat, c'est une assemblée sur un mode assembléiste qui existe peut-être plus en Amérique latine ou en Grèce, mais c'est vraiment un mode d'assemblée. Il vient qui veut, il prend la parole qui veut quand les assemblées ont lieu.
Est-ce que désobéir, être dans l'illégalité, c'est devenu votre seul mode d'action politique aujourd'hui ?
Non, mais par contre, il y a des endroits où il faut pousser un peu, quoi. Avec Primitivi, on est plutôt installé dans des squats. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu tellement dur de se loger en centre-ville que moi, le squat, par exemple, c'est un acte illégal, mais que j'assume complètement et que je trouve légitime et bénéfique pour tout le monde. Il y a plein de lieux qui s'ouvrent. D'ailleurs, il y a un tissu de squat assez efficace et actif dans le quartier de la Plaine. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je revendique complètement. J'ai revendiqué complètement le piratage hertzien il y a quelques années. Quand on a commencé, on a acheté un émetteur, on a piraté les ondes. Aïe, 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 un accident. Voilà, ouais, le squat, le piratage, l'affichage qui est parfois illégal. Oui, moi, il y a des choses qui sont un peu illégales, mais que je revendique comme nécessaires et qui créent du sens, qui créent une réalité, quoi.
Erwan, est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette idée d'une possibilité d'un engagement physique dans le militantisme, comme dans les années 80, où on voyait régulièrement des personnes de la CNT ou des Redskins affronter l'extrême droite? Est-ce qu'il y a toujours cette possibilité de la violence?
Je dirais que c'est pas la possibilité, c'est le risque et l'inquiétude. C'est quelque chose qui est encore d'actualité. On a eu plusieurs locaux syndicaux qui ont été attaqués par l'extrême droite, ça a été le cas à Metz. On a aussi des locaux qui sont attaqués par la police, comme à Lille. Et la menace de groupes d'extrême droite, elle existe. Après, nous, clairement, l'objectif, il n'est pas d'aller se battre dans la rue. On n'est pas une bande, on est une organisation politique qui doit raisonner. Et après, la violence, elle fait partie d'un fantasme dans le monde militant. Et c'est pas faux que sur la CNT, via notre histoire internationale, hein, via nos camarades, la guerre d'Espagne, est porteuse d'une mémoire autour de la violence. Mais elle est en grande partie totalement fantasmée et complètement déconnectée de la réalité de notre quotidien. Notre quotidien, il est pas fait d'entraînement de boxe. Ça, on le laisse justement à l'extrême droite.
Erwan, à l'approche des élections présidentielles, quel regard est-ce que vous portez sur la campagne, sur les partis politiques et sur l'engagement de la CNT dans ce jeu politique aujourd'hui ?
Alors, en tant que syndicat, c'est pour nous quelque chose d'important de ne pas appeler à voter pour qui que ce soit. Moi, après, en tant qu'individu, et c'est le cas aussi pour énormément de mes camarades, on a une grande inquiétude. Parce que même si d'un côté on a peu d'espoir sur ce jeu politique depuis très longtemps, et on va dire depuis au moins 83, d'un libéralisme, de trahison, de partis qui se voulaient de gauche, etc., là l'inquiétude elle se fait de manière beaucoup plus forte, évidemment par rapport à l'extrême droite. Le Front National, mais pas uniquement le Front National, des organisations moins connues comme Égalité Réconciliation, Soral, etc., qui ont une présence très importante, les mouvements sur la manif pour tous, qui pour nous ont été particulièrement rétrogrades et justement oppressifs sur la question des droits des individus, retirer des droits ou essayer de tenter d'empêcher des droits aux individus, on est bien face à des ennemis politiques pour nous. Donc ça, une grande crainte sur le développement de l'ensemble de ces courants et au-delà même de leur développement, là, le sentiment qu'aujourd'hui ils sont presque majoritaire, ou en tout cas un poids très important. Une inquiétude aussi sur le peu de perspective, avec là un quinquennat qui, moi individuellement, ne m'a pas satisfait, et syndicalement a été plus qu'insatisfaisant, qui a commencé avec l'ANI, qui finit avec le code de la destruction du code du travail, en parallèle des mesures de société sur l'état d'urgence, qui pour nous sont particulièrement inquiétantes. Et là, notre place là-dedans, elle est à la fois essentielle pour mener un combat sur les luttes sociales et montrer que c'est collectivement, avec des valeurs, qu'on pourrait appeler tout simplement humanistes, qu'on pourra aller de l'avant et améliorer les choses sur les questions environnementales, par exemple. Il suffit de penser à Notre-Dame-des-Landes, ou à Sivens, ou au choix sur le nucléaire. Bref, tous ces sujets qui sont particulièrement graves et urgents, le sentiment qu'aujourd'hui ils sont pas du tout pris en compte et que ça va être à nous de pousser, pas sur le terrain de l'élection politique en tant que telle, mais sur le terrain social, de la revendication, de l'organisation collective, via le syndicat, mais aussi via les discussions avec les voisins, via pourquoi pas une AMAP, via un réseau de soutien scolaire, via tout ce qui peut permettre de renouer du tissu social progressiste. Et que là, il y a une urgence, pour être clair, oui, l'inquiétude, elle est très forte sur les prochaines élections, sur l'avenir.
Les rues voient défiler des cortèges de militants qui expriment leur rejet de tels textes de loi, de tels projets de société. D'autres citoyens choisissent de rester fidèles à leurs idées en ne votant pas à certaines élections.
Yves, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes abstentionniste ?
Non mais vous avez vu la brochette à droite, ça me déprime, l'idée d'en parler me déprime. Et à gauche c'est un peu le même cirque. Là, je suis dans une impasse et j'ai envie de voter pour ce en quoi je crois. Et absolument pas pour c'est quelque chose qui pourrait me faire peur. Ça, c'est j'ai déjà fait il y a 15 ans, c'est bon. J'ai déjà été pris en otage par Jacques Chirac, alors c'est bon. Là, il y a Sarkozy-Le Pen au deuxième tour, ou Juppé-Le Pen au deuxième tour. Je vais à la pêche. Enfin, je ne vais pas aller voter pour Juppé. Non, mais ça ne va pas bien, non. Je ne peux pas me rendre complice de quelque chose qui serait vraiment un hold-up des idées, pour le coup. J'ai pas envie qu'on opère, qu'on me kidnappe comme ça, en disant, voilà, attention, si tu votes pas pour le moins pire, ça va être une dictature. Mais... Eh ben, si c'est une dictature, ce sera une dictature. Parce qu'après tout, on a les politiques qu'on mérite, non ?
Et ça vous fait pas peur ?
Non. Il y a des gens qui votent Front National par conviction, faut le savoir, quand même. Faut leur demander à eux s'ils ont bien réfléchi, ça leur fait pas peur. Mais moi, il est hors de question pour que je vote pour de l'ultralibéralisme, enfin, c'est, qui méprise complètement tout ce que, en quoi je crois depuis que j'ai 8 ans. C'est pas possible, ça. De toute façon, les gens qui ont voté pour François Hollande, alors, soit ils étaient des gros naïfs et ils ont cru qu'ils pensaient ce qu'ils disaient aux Bourget, mais c'était quand même faire preuve d'une naïveté quand même assez... je sais pas, Hollande, c'est pas Trotsky non plus, quoi. Enfin, faut pas non plus déconner, hein. Soit ils l'ont fait avec cynisme. Mais est-ce que, en tant que citoyen, on nous demande pas d'être cynique? Je pense qu'on a des idées, il faut les porter. Et encore une fois, dans la vie quotidienne, être cohérent avec ses idées.
L'abstention aux élections présidentielles, ça serait en cohérence donc avec vos idées?
Bah oui, puisque mes idées ne sont pas portées par les candidats qui sont pressentis. Je ne vote pas parce que... non pas parce que, je sais pas, j'ai poney ce jour-là. C'est pas du tout ça. C'est parce que je décide de ne pas me rendre... je décide de ne pas y aller, tout simplement parce que je ne peux pas voter, en mon âme et conscience. C'est de l'honnêteté. Moi, je ne vais pas déchirer ma carte d'électeur. Hein, parce que si ça se présente mieux après, je veux avoir le droit de voter. Je veux continuer à avoir le droit de voter. Bah, depuis que j'ai 18 ans, je vote à toutes les élections, y compris les cantonales. Donc, on ne va pas me taxer d'être un mauvais citoyen. C'est là que je suis dans une impasse. C'est tout.
Comment avons-nous rencontré tous ces militants ? Via des amis, des connaissances. Un militant nous parle d'un autre militant. Une chaîne de solidarité militante se crée autour de nos enregistrements. Et puis il y a le beau hasard. On cherche une personne qui pourrait nous raconter pourquoi il vote blanc. Et l'on rencontre un homme humble qui toute sa vie a milité pour résister.
Étienne de Saint-Laurent. Donc président de PC Environnement, association de défense de la nature et de la loi littorale.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé dans la lutte pour le vote blanc ?
Je suis pas tout jeune, j'ai 82 ans. Je me suis dit, mais le vote blanc, ça compte pour du beurre. Il faut faire quelque chose. Et donc j'ai imaginé, avant de connaître l'existence du parti du vote blanc, j'ai imaginé... j'ai tourné dans ma tête toutes les solutions. La meilleure solution, c'est qu'il y ait un candidat qui représente le vote blanc. Et comme ça, lui, il sera comptabilisé légalement. Moi, je pense que si ce candidat obtient, parce que ça va être le problème, ça, qu'il obtienne ses 500 parrainages. Bon. Mais on va tout faire pour. Hein. Bon. Et à partir du moment où il est considéré comme un candidat inscrit, vous allez voir, vous allez être étonné du pourcentage des gens qui vont adhérer. Et ça va changer le débat pour la prochaine présidentielle. Le dernier sondage pour la reconnaissance du vote blanc, il est tout récent, 79% des Français sont pour la reconnaissance du vote blanc. 79%. Et il y a eu un sondage en 2014 où on a demandé aux Français si le vote blanc était représenté. Était compté, comptabilisé officiellement aux prochaines présidentielles, combien voteraient pour ? 26%. Donc ce candidat blanc, à partir du moment où il est inscrit, il peut faire mieux que beaucoup d'autres. Et c'est pas impossible, c'est pas du tout impossible, c'est pas une lubie qu'il soit présent au deuxième tour. Et alors là, ça serait une révolution démocratique.
Je vais revenir sur votre parcours militant. Est-ce que vous pouvez nous décrire ?
Moi, j'ai une formation d'éducation chrétienne, quoi. Et mon premier militantisme, ça a été contre la colonisation, avec témoignage chrétien. J'étais étudiant, 18 ans, je vendais témoignage chrétien à la porte des églises. Et à Rennes, vous essaierez de vous renseigner sur la Jeune République, on avait créé une section étudiante de la Jeune République, et on avait édité une affiche à nos frais, la section étudiante de Rennes, contre la guerre d'Algérie, à une époque où le Parti communiste était encore pour la pacification par les armes. Donc j'étais un militant anticolonialiste de la première heure. Et ça m'est toujours resté, quoi. Alors peut-être qu'une des raisons, enfin je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais bon, ma famille, j'ai une histoire un peu particulière, parce que mon père était militaire, il est mort très jeune, mais surtout il y a eu un incident familial tragique, puisque pendant la guerre, en 1942, il y a eu un avion anglais, là, allié, qui est tombé sur la plage de Saint-Efflam. Et ma mère a recueilli les aviateurs. Elle a été dénoncée et elle est morte en déportation à Ravensbrück, quoi. Bon, je pense que ça m'a marqué. Hein, et d'un autre côté, dans ma famille, on a toujours une tradition d'accueil. Ça tombe bien en ce moment. Là, on a toujours une tradition d'accueil des immigrés. Quand on était à Rennes, on recueillait des étudiants africains ou autres comme ça. Et on a toujours été très, très accueillants vis-à-vis des étrangers dans ma famille. Tout ce qui est racisme et colonisation, c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout.
Être militant, ce n'est pas uniquement être militant politique, c'est complètement ancré en vous.
Oui, ben, c'est-à-dire que ça permet de vivre, parce qu'on est dans une époque quand même qui est terrifiante, hein, quand on y pense. Il y a des tas de choses comme ça. Quand on pense à Alep, tout ça, ou bien tous les réfugiés, tout ça, c'est insupportable. Donc, résister, ça permet de continuer à vivre.
Être militant, c'est résister ?
Ah ben oui, bien sûr, oui.
C'est avec les ambitions qu'on attrape le financier, avec les munitions que dérape le policier. C'est une condition de devoir nous laisser vivre. La foule en érection est déjà bien ivre, en réanimation dans des lits noirs et blancs. Ne tire aucune leçon de nos arracheurs de dents. Ils crachent comme des cons sur le pavé des enfants. Les cigarettes s'allument à l'annonce de leurs 13 ans. C'est juste une épaisse brume de plus dans le présent. Un grumeau qui se glisse dans un liquide charmant. Un cuni bien triste dans une belle bois dormant, des poils qui s'hérissent sur un bras bien coiffé, une pulpeuse nourrice dans un pavillon parfait. On vit, on s'aime à travers nos écrans, on cache, on garde nos envies dans des écrins. Y'a des yeux qui débordent, des vieux qui te bordent, des haches qui se dressent, des tresses qui se lient. La détresse est visible, elle se couche dans nos lits. Un matin de novembre, nargués par un suçon, ils ont repris la vie de n'importe quelle façon. De l'accumulation naît la révolution, une étincelle brille entre deux explosions. Réveille les instincts de tes morbides pulsions. Les gens bien pensants vont quitter leurs fonctions. Notre armée triomphante est rentrée dans Paris. Pénètre dans cette fente aux lèvres déjà meurtries. Un viol quand tu rentres dans une foule asservie. Brûler ces H&M et leurs douze collections. Du haut des H&M, certains n'ont qu'une saison. Ça chuchote en coulisses et l'élève entend des sons. Les mômes s'établissent, un nouveau dessin. Ça barbote dans la bise de nos belles taches de sang.
Hors parti, militer pour résister. Avec Yves, Nicolas, Thierry, Camille, Xavier, Erwan, Étienne. Merci à Gwenoyez, Marie Martinez, Katia Petnik, Arnaud Levenès, Jérôme Finot. Prise de son Chantal Nouvelot. Mixage Alain Joubert. Réalisation Jean-Philippe Navarre. Un documentaire d'Arnaud Contreras pour la série documentaire.
Militant, électeur, vieux briscard, sénateur, parlementaire, abstentionniste, optimiste ou pessimiste, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Pour militer, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le grand soir ou nous réécouter Place de la République, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous irons ausculter les États qui utilisent la terreur pour gouverner.